Merci les musiciens, bonjour à tous, vous allez bien?
Oui!
Très bien, merci Seigneur.
Eh bien, moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu.
Toujours debout. Je me rappelle un jour, il y a eu un bruit qui a couru, comme quoi Frère Osborne était décédé. Je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Une dizaine d'années, et je téléphone et je suis à la secrétaire et je lui dis « Sœur, excusez-moi de vous déranger, mais voilà le bruit qui court en France. Paraîtrait-il que Frère Osborne est décédé ?» Et elle dit « Oh non, il est là à côté de moi !» Et le Frère Osborne me crie « Je suis encore là pendant quelques années pour embêter le diable, pauvre diable, il n'a pas fini avec moi !» Ça, c'était Frère Osborne. Et en vieillissant, je m'identifie de plus en plus à cet homme de Dieu. Galates chapitre 5, versets 22-23. Où est-ce que c'est? C'est là. Ben, non, c'est pas ça. C'est 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Oh, je me disais aussi. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Amen. Merci Amen. Seigneur d'ajouter ta bénédiction à ce que je vais dire ce matin pour mes frères et sœurs. Amen. Voyez-vous, éteindre l'esprit, c'est ne pas rester joyeux. Éteindre l'esprit, c'est arrêter de prier. Éteindre l'esprit, c'est arrêter d'exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances, c'est-à-dire dans les bonnes circonstances, mais aussi dans les mauvaises circonstances. Parce que dans les mauvaises circonstances, nous savons par le Seigneur Jésus-Christ que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui sont à Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc, éteindre l'esprit, c'est ne pas croire ça. Et les gens qui cherchent à faire la volonté de Dieu et qui prient et qui prient et qui prient et qui prient, eh bien, il serait mieux simplement de mettre en pratique ces quelques lignes et les choses iraient beaucoup mieux dans leur vie et les portes s'ouvriraient tout simplement dans leur vie d'une façon naturellement surnaturelle. Amen. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je vis. Ça fait des années maintenant et voilà, je l'enseigne et je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui croient ce que je dis. Alors, c'est pour ça que je continue. Vous savez, presque tous les gens vivent inconsciemment dans l'ennui. L'ennui, c'est le fond de leur vie. Si vous creusez, au bout d'un moment, vous apercevez que c'est ça, c'est l'ennui. Vous savez, en fait, c'est l'ennui qui a inventé les jeux, les distractions, les romans, et tous ces matchs. C'est l'ennui qui a inventé tout ça. Alors, qu'est-ce qui finalement habite le fond du fond de votre cœur? Eh bien, je crois que pour la majorité des gens, si on va fouiller un peu, c'est la lassitude. Une lassitude énorme, énorme. Une insatisfaction tenace, collante, gluante. Dernièrement, si vous ne le savez pas, ben vous allez l'apprendre, j'ai passé sur le billard et ça a été très difficile. On a même pensé que j'allais y rester. Et au réveil, j'ai ressenti une grande gratitude. J'étais là, j'étais complètement shooté à la morphine. Vous savez, ils vous shootent à la morphine. Maintenant, ils ont enfin compris dans les hôpitaux que la douleur, c'est pas tellement utile. Alors maintenant, on vous met un petit peu de morphine pour que... Et j'étais shooté grâce à l'anesthésiste qui avait bien fait son travail, qui s'était pas planté. J'étais toujours là grâce au chirurgien qui avait fait un travail remarquable. J'étais toujours là grâce à tout le personnel formidable qui avait tout préparé, la tiraille. Ils sont pas dit au dernier moment, tiens, il nous manque une vis, il faut qu'on aille à chercher un bricot décor ou je sais pas quoi. Non, non, tout était là bien préparé à l'avance. J'étais là donc grâce à toutes ces petites mains, tous ces gens-là, j'étais là. Et puis j'ai ouvert les yeux et grâce aussi à tous ces appareils qui avaient bien fonctionné, vous savez, la machine qui fait bip, hein. Vous connaissez la machine qui fait bip, non? C'est la machine qui dit que votre cœur y bat toujours, ça fait ping. J'étais là grâce à l'expérience absolument sans réserve de l'interdépendance. C'est-à-dire que ce n'était pas un chirurgien tout seul, c'était toute une équipe
qui s'était occupé de moi pendant que moi je dormais tranquillement. Grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Il faut être reconnaissant. C'est grâce à Dieu qui a voulu, une fois de plus, eh bien, que je reste encore un petit peu sur cette terre pour embêter le diable et aussi ses suppositoires qui... tous les gens qui le suivent et qui... Et puis aussi, voilà, pour aider les personnes qui en ont besoin. Et je pensais à tous ces gens qui avaient passé sur la même table d'opération et qui, eux, n'ont pas eu cette bénédiction de se réveiller, mais qui sont partis de l'autre côté. Enfin, quand je dis cette bénédiction, moi, de toute façon, si j'étais passé de l'autre côté, c'était une bénédiction aussi pour moi, parce que la mort m'est un gain, comme disait l'apôtre Paul. Donc, de toute façon, en toutes circonstances, c'était bien. Voilà, que je reste sur cette terre, c'est bien, que je parte, c'est bien, c'est toujours bien avec le Seigneur. Amen, Rachel, hein, on sait que c'est comme ça dans la vie avec le Seigneur. Alors, pour rigoler, vous savez bien comment je suis, à peine réveillé, je vois une infirmière et je lui dis « Ah bon ? Je suis donc pas mort ?» Et alors elle a éclaté de rire et ça y est, la vie recommençait, les rires et puis les plaisanteries et les choses gentilles, je l'ai remercié. Alors c'est vrai que la mort m'est un gain, mais bon, on est quand même bien sur le plancher des vaches, non ? On n'est pas bien sur le plancher des vaches ? Bien sûr, que dire ? Un ami est venu me trouver la semaine passée. Il m'a dit avec un air très sérieux, est-ce que tu as appris quelque chose pendant cette épreuve, pendant cette difficulté tout au long de cette maladie, est-ce que tu as appris quelque chose? Et du tac au tac, j'ai répondu non, non, je n'ai rien appris. Alors il était étonné, il disait, il y a beaucoup de gens qui, après avoir passé par une grande épreuve comme toi, changent, il y a des choses qui... Je dis, non, je n'ai rien qui a changé, je suis toujours Michel Janton, non, je n'ai absolument rien appris. Et je vais vous dire pourquoi j'ai rien appris, je vais vous expliquer. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai toujours su, parce que j'ai eu le privilège de rencontrer des serviteurs de Dieu équilibrés sur la parole de Dieu, j'ai toujours su que ce n'était pas Dieu qui envoie les maladies. La maladie, c'est une œuvre qui vient du diable. Jésus allait de lieu en lieu, détruisant les œuvres du diable en guérissant les malades. Voilà ce que je lis dans la Bible. Alors, c'est ce que la Bible dit, c'est donc la vérité. Si Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable que Dieu envoie pour nous apprendre quelque chose, Jésus est en contradiction avec son Père. Si les médecins luttent contre la maladie que Dieu nous envoie, les médecins sont des suppôts de Satan. Il faut les tuer. C'est complètement idiot. Je ne peux pas croire les idioties. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que dans certains cas, Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quelque chose. Eh bien, moi, je crois absolument pas ça. Je ne peux pas imaginer, l'autre jour, j'ai vu ici Lydie et Olivier avec leur petit bout de chou, leur petite fille, et je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? J'imagine pas Olivier prendre une seringue avec le virus de la tuberculose ou que sais-je, et planter ça dans les fesses de sa fille en lui disant, voilà, ça va t'apprendre à être sage. Non, c'est monstrueux. Un père normal ne donnerait pas une maladie à sa fille ou à son fils pour lui apprendre quelque chose. Alors si nous, méchants comme nous sommes, nous ne faisons pas ça, à plus forte raison, Dieu ne le fait pas. Amen. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut être idiot de penser que Dieu va nous apprendre des choses au travers de la maladie. Non. C'est pas possible, c'est idiot comme croyance, et moi je suis pas un idiot, je ne crois pas les idioties, je suis incapable de croire que Dieu m'ait envoyé une maladie pour m'apprendre quelque chose. Donc, selon ma foi, il est normal que je n'aie rien appris. C'est normal. Quand j'apprends quelque chose, c'est pas au travers d'une maladie. Voilà, c'est dit. Maintenant, comme disait Camilla, tu mets ça dans ta poche, tu mets ton mouchoir par-dessus et t'en fais ce que tu veux. Si tu veux absolument croire que la maladie, ça peut t'apprendre quelque chose, alors profite bien de cette croyance idiote et tu verras où ça va t'amener. Moi, en tout cas, j'y crois pas et je l'enseigne clairement. Avant de tomber malade, je savais déjà que mon corps, le corps humain, est vulnérable. Il est vulnérable. Je savais déjà, avant de tomber malade, que le mal atteint souvent les hommes et les femmes qui ont été justifiés par le sang de Jésus, mais que l'Éternel les en délivre toujours. Dieu nous en délivre parfois avec une aspirine, non? Hein? Quand vous avez mal à la tête, vous n'allez pas trouver un chirurgien. Moi, je prie même pas quand j'ai mal à la tête. Une aspirine, ça va marcher aussi bien. Donc voilà, je prends une aspirine. Ah bon, tu pries pas quand tu as mal à la tête? Non, je prends une aspirine, je suis pas fanatique. Et puis, Dieu peut nous délivrer par un miracle, Dieu peut nous délivrer par une opération chirurgicale, et puis Dieu peut nous délivrer par la mort. Il faudra bien mourir un jour, non? Vous croyez pas, vous? Ah oui, mais moi j'ai l'espérance dans l'enlèvement. Ouais, ben j'en ai connu des gens qui avaient l'espérance dans l'enlèvement. Hein, j'en ai vu au château des mémères qui nous disaient: oh, j'ai eu la vision qu'on était tous autour de l'étang, et puis qu'on partait tous ensemble. La vieille, elle est morte là maintenant. Et l'enlèvement n'a toujours pas eu lieu. Et sa vision, c'était quoi? Du sentimentalisme dégoulinant. Bien sûr que Jésus va revenir, et bien sûr qu'il y en a qui vont partir dans l'enlèvement sans passer par la mort. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En attendant, on a de fortes chances de passer l'arme à gauche, non? Ben voilà, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Mes frères et sœurs, il y a en nous, parce que Dieu l'y a placé, une plénitude, une santé fondamentale, et il y a des ressources inouïes. Dieu a placé ça en nous. Et nous savons tous que malgré ça, malgré le fait que Jésus ait porté nos maladies à la croix, malgré le fait que la médecine a fait des progrès, et Dieu sait si la médecine a fait des progrès, un jour ou l'autre, on va mourir. Et alors, si vous avez peur de la mort, c'est que vous n'êtes pas vraiment converti. Mais quel chrétien peut-il avoir peur de la mort? Mais ça va être tellement mieux de l'autre côté. Mais tellement mieux. Vous imaginez pas comment ça va être extraordinaire? Ça va être extraordinaire. Eh bien, à la question que ce gentil frère m'a posée, est-ce que tu as appris quelque chose? J'ai répondu non. Non. Et après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, en fait, moi, mon fond, c'est que je m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. Je refuse de m'ennuyer. À peine rentré à la maison, j'ai fait accélérer les choses. On avait déjà entrepris des choses dans la communauté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé la vitesse supérieure et là, on s'est engagé. Hein, frères et sœurs? On a passé la vitesse supérieure et on a accéléré et les choses bougent de plus en plus. Je ne veux pas vieillir en m'ennuyant. Jamais de la vie. Alors, je me bouge. Je vends, j'achète, je fais des projets et je m'entoure de personnes capables de m'aider et j'élimine ceux qui ne peuvent pas m'aider et qui viennent ici juste pour me pomper l'air et m'ennuyer avec des trucs négatifs. Question: où est-ce que tu as élu ton domicile? À l'étage de l'ennui? Où est-ce que tu as élu ton domicile? À l'étage de l'ennui? Où est-ce que tu l'as? Est-ce que tu habites à l'étage de la foi qui te pousse à l'action? Ça, c'est une bonne question. Alors, je sais, il y a une grande majorité de personnes qui ne trouvent qu'un fond d'ennui et de tristesse en eux. Ils ne savent pas comment faire pour trouver un réconfort, de la joie et tout ça. Ils ne voient pas comment changer ça. Écoute-moi bien ce matin. Je ne sais pas comment je serais si je n'avais pas rencontré Jésus. Mais je connais plein de gens qui ont rencontré Jésus et qui ont quand même ce fond d'ennui. Pourquoi? Parce qu'ils s'entourent de pasteurs négatifs, fatalistes, défaitistes, ennuyeux, gris comme les murs, casse-pieds, tordus. Mon Dieu, je les fuis ces gens-là. Il ne faut pas aller écouter des gens comme ça, parce que tout ce qu'ils vous racontent, ça rentre en vous, et puis ça fait de vous des gens négatifs, défaitistes, fatalistes, pleurnichards. Non mais c'est quoi ce cirque? Il faut fuir des gens comme ça, c'est des gens dangereux. Vous savez, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été suffisamment intelligent pour fuir les négatifs. Je dis les négatifs pour pas dire les cons. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça, et je vous assure, il y en a beaucoup. J'ai toujours suffisamment été intelligent pour chercher à fréquenter des gens qui réussissent, les gens qui sont mieux que moi, les gens qui font quelque chose et qui ont réussi, et je veux savoir pourquoi, comment ils ont fait. Et c'est ça qui m'instruit, c'est ça dont je me nourris. Je ne vais pas me nourrir auprès des gens qui ont tout raté en leur demandant « mais comment vous avez fait pour rater aussi bien votre vie ?» Je m'en fous, moi, comment ils ont fait pour rater leur vie. Moi, ce que je veux, c'est réussir la mienne. J'en ai qu'une sur cette terre, je vais la réussir. Et je veux, et je choisis des modèles. Il y a des gens qui m'inspirent, et c'est eux que je copie. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, nous devons être les imitateurs de ceux qui réussissent. L'apôtre Paul était un homme extraordinaire. Eh ben voilà, imiter l'apôtre Paul, imiter des hommes comme Osborne, comme Daisy Osborne, comme des gens comme Raphaël, comme Violette, comme des gens formidables, des gens positifs, la sœur Camilla. Est-ce que vous avez déjà entendu la sœur Camilla pleurnicher? Elle pleurnichait des fois pour nous faire rigoler. Mais elle pleurnichait jamais sérieusement. Et quoi alors? C'est quoi réussir dans la vie? Ça, c'est aussi une bonne question, puisque je dis que je cherche à m'entourer de gens qui réussissent dans la vie. Réussir dans la vie, c'est pas pouvoir se payer la plus belle voiture, le plus beau château, ou tout ça. J'ai eu tout ça. Je vais encore avoir mieux bientôt. Mais c'est pas ça, réussir sa vie. Ce qui est réussir sa vie, c'est être à l'étage de l'enthousiasme. C'est avoir des projets pour pouvoir aider les autres. C'est se sentir utile. Frère Osborne y prêchait la prospérité. J'ai écouté ce matin une prédication qu'un gentil pasteur m'a envoyée au sujet des pasteurs de la prospérité qui sont tous en enfer. J'ai dit non, mon frère, ils ne sont pas tous en enfer. Les hypocrites, les comédiens qui se sont servis de ce message pour s'enrichir, oui, c'est possible qu'ils iront en enfer. Ils n'y sont pas encore parce que pour le moment, il n'y a personne en enfer. Il est vide et les premiers qui seront jetés en enfer, c'est la bête, le faux prophète et ensuite tous ceux qui les auront suivis. Mais pour le moment, il n'y a personne en enfer. Et puis, les pasteurs de prospérité ne vont pas tous aller en enfer parce que alors s'ils y vont, ben Jésus va y aller aussi puisque c'est lui qui a lancé ce message en disant « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. » Alors, oui, nous avons la vie en surabondance, c'est-à-dire surabondance de problèmes qui nous permettent d'avoir des surabondances de solutions. C'est ça la prospérité, c'est ça la vie prospère. C'est de se sentir utile, c'est de gagner de l'argent, non pas pour pouvoir avoir les plus belles choses, bien sûr que c'est bien d'avoir les belles choses, mais c'est surtout pour aider les autres. Si j'avais gardé tout l'argent qu'on m'a envoyé pour pouvoir me servir moi-même, mais j'aurais un pognon fou. Mais on a aidé des milliers et des milliers et des milliers de personnes avec cet argent. Et puis au passage, j'ai pris un petit peu quelque chose aussi pour me permettre d'avoir des costumes quand même potables. Je m'habille chez Boss, non, je sais pas, chez Burton. C'est quand même pas un luxe extraordinaire. Hein? Je m'habille pas encore chez Versace, que je sache. Non, il faut être équilibré. On ne doit pas museler le bœuf quand il tourne autour de la meule pour mouler le grain. C'est-à-dire que quand le bœuf est en train de mouler le grain, eh ben, il en bouffe aussi. Et moi, c'est vrai que, eh ben, tout travail mérite son salaire et qu'un serviteur de Dieu, il veut aussi avoir de quoi vivre correctement. Oui ou non? Ben voilà, c'est normal. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des imposteurs qui se sont servis du message de la prospérité pour s'enrichir d'une façon éhontée, puis maintenant, vieillissant, ils ont la trouille, puis ils viennent demander pardon, comme l'autre clown, la bénigne. Non, mais ça, c'est honteux, mais honteux. N'empêche qu'il n'a pas vendu ses maisons et toutes ses propriétés. Zachée, lui, quand il s'est aperçu qu'il avait volé, il a dit, ben, je vais rembourser 4 fois ce que j'ai volé aux gens. Ben voilà, ça, quand il fera ça, je croirai sa repentance. Non, mes frères et sœurs, le message de la prospérité n'est pas un message anti-biblique, mais il y a des gens anti-bibliques. Mais je ne les suis pas, je ne marche pas avec eux. Ne marchez pas avec ces escrocs, ils vont vous voler pour pouvoir s'enrichir. Alors, voilà, se sentir utile. Frère Osborne était utile, il a amené avec tout cet argent des milliers de personnes à Jésus et il continue à en emmener. Savez-vous que j'ai mis quelques messages de Frère Osborne sur Facebook, Révélation Bible et sur révélationbible.fr? Eh bien, il y a des milliers de personnes qui l'ont écouté et qui se sont encore converties alors que Frère Osborne est dans sa tombe. Simplement en écoutant les prédications. C'est pas magnifique ça? Il est encore utile, quoique mort. Amen. Voilà, se sentir utile, c'est ça réussir sa vie, se sentir utile. Alors bien sûr, il y a des moments aussi où je suis triste, ça m'arrive, mais je ne m'installe pas dans la tristesse. Vous savez, quand j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans, j'étais opéré de l'appendicite. Et c'était dans une clinique en Suisse qui s'appelait, je ne sais plus comment, on y est allé encore il n'y a pas longtemps, avec Michou pour rendre visite à une sœur, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, peu importe. Et là, c'était, vous savez, ils endormaient des gamins encore avec un masque, et puis du chloroforme, c'était horrible, c'était affreux comme impression. Et l'infirmière, elle me parlait tout en me mettant le truc, elle disait « Prap carson », parce qu'elle avait un accent suisse-allemand, qu'elle « Prap carson », puis alors j'entendais « Prap carson, prap carson, prap carson, prap carson, prap carson ». Pendant toute l'opération, il me semble que j'ai entendu cette phrase. Et puis quand je me suis réveillé, c'était encore elle qui était là, et puis elle me disait « Michel, si tu commences à avoir mal, il faut que tu m'appelles et je te donnerai un cachet pour enlever la douleur, parce qu'il ne faut pas attendre que la douleur s'installe, parce qu'une fois que la douleur elle est installée, c'est plus difficile à la déloger. T'as bien compris, petit ?» J'ai bien compris. Et croyez-moi, maintenant que je suis dans ma 70e année, j'ai gardé encore cette phrase de cette brave sœur, bonne sœur à Suisse allemande, de cette clinique là-bas à Vevey. Et j'ai tellement compris ça que j'applique ce qu'elle m'a dit à toutes mes douleurs et à toutes mes souffrances. Je ne permets pas à la douleur de s'installer. Je fais quelque chose avant que ça s'installe. La douleur vient, je réagis. Je ne me laisse pas faire. Vous voyez? Je ne me laisse pas hypnotiser par la douleur. Je fais quelque chose, je bouge. Ne laissez pas la douleur s'installer en vous. Faites ce qu'il faut pour atténuer la douleur. Et le meilleur truc pour atténuer la douleur, c'est d'en parler à Dieu. Parlez à Dieu, suppliez Dieu, demandez à Dieu de vous soulager, demandez à Dieu de vous donner des forces. Il va ranimer quelque chose en vous qui va lutter contre la douleur. On a en nous des glandes qui fabriquent des produits qui enlèvent la douleur. Je sais pas comment ça s'appelle, Michou, comment ça s'appelle déjà ce truc-là. Mais on a ça en nous. Et puis si ça suffit pas, ben il existe des cachets pour enlever la douleur. Il existe toutes sortes de trucs. La deuxième chose pour nous enlever la douleur, pour lui interdire de s'installer, c'est d'aider quelqu'un qui souffre encore plus que nous. Vous voyez, quand vous aidez quelqu'un qui souffre encore plus que vous, vous relativisez au sujet de votre propre douleur. Et le troisième moyen pour lutter contre la douleur, c'est de faire des projets rigolos à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous savez ce que j'ai fait le jour où je suis rentré de l'hôpital? J'ai été sur Google et j'ai tapé « Sylvie Vartan ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'elle fait celle-là en ce moment ?» Ah, elle fait un concert le 23 octobre au Grand Rex. Ah, eh ben, j'ai commandé deux billets, un billet pour ma femme, un billet pour moi. Je me suis fait un plaisir à long terme. Vous allez me dire, c'est charnel? Oui, c'est charnel. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, frères et sœurs. Je suis encore dans la chair. Et j'ai encore des oreilles pour écouter de la bonne musique. Et si vous trouvez que Sylvie Vartan, c'est pas de la bonne musique, eh bien, pensez ce que vous voulez, mais ne dégoûtez pas les autres. Voilà, c'est tout. Faites-vous des plaisirs à court terme, à moyen terme, à long terme. Ayez voilà, moi maintenant, je me dis, le 23 octobre, je sais où je serai. Hein, chérie, je vais t'acheter une belle robe, et puis on va aller dans une jolie soirée sympathique, on va rencontrer tous nos amis, parce que dans les concerts de Sylvie Vartan, c'est presque toujours les mêmes, on se retrouve, puis après on va se faire une bouffe, c'est sympathique comme tout. Ça, il faut refuser que la souffrance, l'ennui, les montagnes de problèmes qui se présentent devant nous s'installent. Il faut lutter contre. Et comment? Ben, en faisant des choses qu'on aime et en projetant dans notre vie des choses qu'on aime, même si c'est un petit peu charnel. Maintenant, si vous voulez me condamner parce que je vais écouter Sylvie Vartan, mais condamnez-moi. Je sais qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Alors votre condamnation, elle me glisse sur les plumes. Alors, mais quelque chose de très très... Et ça me fait marrer, ça me fait rigoler. Condamnez-moi, je m'en tape le coquillard contre une porte de grange, comme disait l'autre. Même si je suis encore très fatigué, mes frères et sœurs, même si je suis encore très fatigué, j'entreprends des choses. Ce matin, les frères m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prêches assis ou tu prêches debout? Je dis, oh, je me sens pas très bien, je prêche assis. Puis après, j'ai dit non, je prêche debout. Je vais montrer à mon corps que je suis encore capable, et puis je m'assierai après, et puis voilà, puis je suis debout, puis je suis en pleine forme, non? Hein? Est-ce que ça se voit que je viens d'être opéré? Qu'on vient de m'enlever 20 cm d'intestin? Est-ce que ça se voit? Non? Eh bien, tant mieux, gloire à Dieu. Et le diable est vaincu au nom de Jésus, et moi je prends la victoire en bougeant, en refusant que le mal s'installe, que la tristesse s'installe, que la morosité s'installe. Non, mais c'est quoi ce cirque? Ça n'habite pas dans mon étage, tout ça. Question. Qu'est-ce que fait votre cerveau quand vous ne faites rien? Parce qu'il y a des moments où vous ne faites rien. Eh bien, c'est quand tout va bien qu'il faut donner à votre cerveau les matériaux nécessaires dont il va se servir quand vous ne ferez rien ou que vous ne pourrez rien faire parce que vous serez peut-être alité sur dans un lit de souffrance à l'hôpital ou parce que vous aurez, je ne sais pas, il y a des moments où on est bloqué, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire. Eh bien, c'est avant que ça arrive qu'il faut donner à votre cerveau de quoi mouliner. En ce moment, je ne peux pas faire grand-chose. Là, par exemple, ce matin, je vais prêcher, tout à l'heure, on va manger, puis après, je vais faire une sieste. Je ne faisais jamais de sieste avant. Ben maintenant, j'ai découvert les joies de la sieste. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Ça doit être un esprit du sud-ouest, ça. Qu'est-ce que c'est agréable. Et alors, eh bien, je sais, parce que je l'ai lu, quelque part dans un bouquin, que quand je ne fais rien, eh bien, ça donne à mon cerveau la possibilité de réparer mes cicatrices. Mais c'est génial, donc je ne fais pas rien, je suis en train de réparer mes cicatrices. Donc, tout à l'heure, quand je vais aller faire ma sieste, je vais m'allonger sur mon lit, avec la fenêtre là, sur mon côté gauche, et puis je verrai les beaux paysages ensoleillés et les petits bourgeons qui poussent sur les arbres, et je me dirai, vas-y mon cerveau, continue à réparer mes cicatrices pendant que moi, je ne fais rien. Vous comprenez? C'est génial! Voilà, et ça me donne de la joie, ça me donne de la reconnaissance, ça me donne de la gratitude. C'est ça l'intelligence, plutôt que de dire « Oh, j'ai mal ici, oh, j'ai mal là, oh, faut que je me repose. Ah. » Bon, faites comme vous voulez, hein. Il y en a qui disent « Mais toi, t'as une nature comme ça. » Non, j'ai pas une nature comme ça, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas une nature comme ça. J'ai fabriqué ça. Comment ça, t'as fabriqué ça? Oui, j'ai lu dans la Bible qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et comme j'étais une créature négative, et que Jésus dit que maintenant je suis une nouvelle créature, donc ça veut dire que je suis une créature différente, c'est-à-dire une créature positive. Et voilà, c'est pas plus compliqué. D'accord? Ben voilà, c'est ça. En fait, les infirmières qui viennent me voir tous les jours pour me faire des piqûres à domicile et pour voir mes cicatrices, elles n'en reviennent pas à quelle vitesse je cicatrise. Elles disent, ben dis donc, vous, votre corps, il réagit bien, hein, mais pourtant vous êtes pas jeune. Vous voyez, c'est pour tout la même chose. Il faut que vous preniez soin de vous en vous cultivant. Je sais que je vais bientôt pouvoir reprendre mon entraînement sportif. Là, le 6 mars, je vois le chirurgien qui m'a opéré, il va regarder et il va dire « Ah ben non, vos cicatrices, c'est génial, c'est super, comment ça s'est passé ?» Je vais en profiter pour lui dire « Alors c'est quand que je peux retourner à la muscule ?» Il va faire une tête épouvantable, je sais. Mais il va dire « Oh là, monsieur Janton, allez-y doucement. » Bien sûr que je vais y aller doucement, mais je veux pas me laisser aller. Je veux pas me promener avec un gros huit sous prétexte que j'ai été opéré. Mais c'est quoi ce cirque? Non, je vais reprendre le sport. Le sport, c'est une bonne chose. Ça fait circuler le sang. Il y a beaucoup de chrétiens, plutôt que de rien faire ou de prier des prières négatives, il faudrait mieux d'aller suer un petit peu en faisant du sport. Ça leur aérerait le cerveau. Ça les oxygénerait, ça leur fait du bien. Alors, j'entraîne mon corps, j'entraîne mon âme pour que mon corps et mon âme fonctionnent en symbiose avec mon étincelle divine, c'est-à-dire avec mon esprit. Alors, au lieu de me plaindre, je rigole. Je rigole. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté toute une série de CD rigolos. Là, ça s'appelle Kaamelott. Ben, c'est pas très spirituel, hein. Mais je rigole. On regarde ça de temps en temps, on en regarde une heure, une demi-heure, on rigole. Il faut rigoler. Il avait raison, Henri Salvador. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Mais oui! Pourquoi tout le temps se plaindre? Ça sert à quoi? Les gens, quand vous plaignez, ils viennent chez vous. Vous vous plaignez, ils disent « Oh, le pauvre, c'est triste. » Ils sortent de chez vous, ils disent « Oh, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé. » Ils reviennent, vous continuez à vous plaindre. Mais vous pouvez être sûr qu'ils vont pas venir 4-5 fois. Hein. Vous faites fuir les gens en plus quand vous vous plaignez. Mais quand vous êtes positif, eh ben, ça inspire les gens. Et ils viennent vous revoir. Et c'est sympathique, non? Se plaindre, ça attire vers le bas. Alors arrêtez de vous plaindre. Vous avez de quoi vous plaindre. Mais moi aussi, j'ai de quoi me plaindre. Ben, vous m'entendrez pas me plaindre. Vous savez, je crois que le message de la Bible est, entre autres choses, celui-là. plus tu t'efforces d'héberger en toi un certain regard sur le monde, un regard posé, un regard serein, un regard objectif, un regard vrai, plus tu auras de chances de bien fonctionner. Trop de chrétiens fonctionnent par défaut. Vous savez, on dit toujours, les ordinateurs, il y en a, ça fonctionne par défaut. Moi, par exemple, quand j'allume mon ordinateur, c'est Google qui apparaît. C'est par défaut. Je peux changer ça. Je pourrais mettre Yahoo, je pourrais mettre d'autres choses. Mais non, c'est Google. Bon, ben, je m'en fiche, j'aime bien Google. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire par défaut? Il y a des chrétiens qui fonctionnent par défaut, c'est-à-dire ils fonctionnent par habitude, avec une absence d'alternative. Ils fonctionnent avec des manques d'informations, toujours pareil. Alors, qu'est-ce que c'est leur façon de compter, de travailler par défaut? Ben, je vais vous le dire, ça a l'air très spirituel, mais ça ne l'est pas. Les chrétiens qui fonctionnent par défaut sont des chrétiens qui comptent uniquement sur Dieu. Les chrétiens qui fonctionnent par défaut sont des chrétiens qui s'attendent à ce que Dieu le fasse. Et ils ne font rien. Alors que la Bible nous dit que la foi, c'est une activité, et que s'il n'y a pas une activité dans notre foi est morte. Alors si vous attendez que ce soit Dieu qui fasse, ben vous ne faites rien. Et votre foi est morte. Et si elle n'est pas encore complètement morte, elle va devenir vraiment complètement morte. Ah, mais n'attendez pas que Dieu fasse tout. Il a dit qu'est-ce que vous pouvez faire. Lisez la Bible, vous allez voir. Il y a plus de commandements, fais-le, 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 que de commandements, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. C'est vrai, mes frères et sœurs. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour faire du bien sur cette terre, pour se faire du bien, pour faire du bien aux autres. Tes tendances habituelles résulteront de l'accumulation de tes pensées et de tes émotions qui viennent s'ajouter à tes prédispositions génétiques. Tu as des prédispositions génétiques. Je connais des tarés qui sont tarés parce que leurs parents sont déjà tarés, mais comme ils se sont convertis, maintenant ils peuvent accumuler des émotions et des pensées positives de foi en Jésus-Christ et de confiance dans leur prochain qui vont venir s'accumuler et couvrir cette espèce de plancher de négativisme et de crétinisme génétique et ils peuvent devenir intelligents et gagnants. Mais ils ne le veulent pas, ils disent, oh, je suis comme ça, on n'y peut rien. Comment ça on n'y peut rien? C'est faux. Il faut se prendre en main, il faut se cultiver. Si tu râles tout le temps, si tu rumines tout le temps des trucs négatifs, si tu te tourmentes tout le temps, si tu te flagelles tout le temps en te condamnant, en t'auto-condamnant, alors c'est cela que ton cerveau va mouliner en mode défaut quand tu auras cessé de faire des efforts, quand tu arrêteras de faire quelque chose, eh bien ton cerveau va mouliner en mode défaut tous ces trucs-là, c'est-à-dire des trucs négatifs. Il le fera par habitude, il le fera par défaut. Tous les circuits négatifs vont tourner tout seul et tu n'auras même pas besoin de détruire volontairement, ça se fera tout seul et tout marchera encore plus de travers simplement parce que tu as pris des sales habitudes de toujours râler, de toujours mendier, de toujours de ruminer des choses mauvaises. C'est stupide, c'est pas chrétien de faire ça. Alors mon frère, ma sœur, rien de ce que tu laisses tourner dans tes pensées n'est anodin. Tout est important. Voilà, je te laisse avec ça. Médite, prie, réfléchis et lève-toi pour gagner. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Merci Seigneur parce que tu m'as donné encore la force de prêcher ce message et je te prie que si tu le veux, je puisse encore prêcher 2-3 ans encore ou un peu plus si tu veux, comme tu veux. Mais moi je suis content quoi qu'il arrive, que ton nom soit béni. Amen. Merci Jésus. Au revoir.